Interview.
2023 sur un stand avec
Eric. Je m'appelle Eric et sur le stand on peut trouver Fakir, on peut trouver Chômeuse Go On, on peut trouver des t-shirts divers et variés. On partage le stand avec L'Âge de Fer et différents médias alternatifs. Il y a Le Point, il y a Le Chiffon. Enfin, la semaine dernière on était sur le festival La Belle Rouge de la compagnie Jolimôme. Et puis comme c'est sur ma route, parce que j'habite dans le Var, je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter une semaine sur l'Arzac. Donc on est là, et puis on profite de cette ambiance de résistance et de militance, quoi.
Avant qu'on parle de toutes ces éditions, comment tu le conçois, ce stand, en fait?
Mais on est à la fois des relais des médias, et puis aussi on bosse avec les éditions Agone, qui sont basées à Marseille, éditions de lutte sociale. Les Mutins de Pangée, qui sont une coopérative audiovisuelle, qui ont mis... Pendant les manifestations contre la réforme des retraites, beaucoup de films en accès libre pour financer les caisses de retraite. Donc voilà, c'est du militantisme festif, je dirais, parce qu'on aime bien boire un coup, proposer aux gens et tout. Donc on propose à la fois des t-shirts, et puis ça nous semble être présent autant des fois dans des salons bio, sur un squat, que sur un événement comme celui-là. Donc on est présent, on fait un petit peu le tour. Nous, on a une structure qui s'appelle YouTube Hercule, où on fait du podcast radio.
Ah, excellent.
Et puis, si tu veux, les 4 ronds qu'on arrive à récupérer des ventes ici servent à financer le prochain reportage.
Ouais, donc il y a un objectif d'être aussi transmetteur, de faire un peu d'éducation populaire à votre niveau, quoi.
Oui, voilà, on est vraiment dans l'idée d'éducation populaire, et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'autant suivant les lieux où tu te trouves, tu n'as pas le même public. Des fois c'est très écologiste, des fois c'est très féministe, des fois c'est très militant, des fois tu te retrouves avec des gens du NPA très anards, et puis après tu te retrouves dans des lieux où il y a des espaces en non-mixité choisis, ce qui pour un homme cis comme moi de 63 ans peut amener à la discussion et à l'interrogation, qui est très intéressant, quoi. Donc voilà, on navigue entre tous ces milieux et... On met un point d'honneur quand même à ce que ça soit festif et joyeux, quoi. C'est pas uniquement de distribuer des tracts, mais c'est essayer de faire en sorte qu'on passe un moment agréable, quoi.
Et Eric, ça part d'où cette envie? Et peut-être dis-nous aussi pourquoi.
Ben, disons que j'ai commencé, j'étais agriculteur, donc je faisais dans le Var. Je produisais du basilic pour faire du pistou, et le basilic nécessitant de la chaleur, il y avait des mois d'hiver où j'étais disponible. Et donc pour dépanner... des structures diverses et variées, je leur proposais des services en tant que bénévole. Après, je me suis retrouvé au chômage, donc il y avait la possibilité de rentrer 4 ronds, mais ça n'a jamais été véritablement un objectif. Et maintenant que je suis retraité, je peux le faire sans objectif financier, ce qui dégage de toute pression et ce qui permet d'aller à tous les endroits, quoi. Dans des endroits où tu sais que tu vas faire un reportage radio, tu vas proposer une projection à l'arrache en sauvage. Tu ne vas pas gagner de rond, mais ça ne fait rien. Le coup d'après, tu es sur un salon bio où là, tu vas gagner 4 sous qui va te renflouer les caisses de l'association. Donc voilà, c'est du militantisme de base. C'est vraiment, tu parlais d'éducation populaire, je pense qu'on est là-dedans. Et ça me semble intéressant d'être là, dans ce lieu, d'autant plus que j'y étais il y a 20 ans, dans un contexte complètement différent. Et j'apprécie vraiment le fait qu'il n'y ait pas eu d'annonce de tête d'affiche, que ça soit réduit à 5000 personnes, et que les gens qui sont ici sont des gens conscientisés politiquement, alors qu'il y a 20 ans, il y avait beaucoup de gens, et on ne leur reproche pas, qui étaient venus pour faire la fête. Et je pense que c'est bien, en termes d'organisation, que ça soit pour les tentes, pour le parking, pour les toilettes, pour les douches, pour la bouffe, il y a vraiment une structure qui est impeccable, et je tiens à les féliciter. Je les ai félicités ce matin en allant faire caca comme tout le monde. Parce que, bon, voilà, il y a des équipes qui sont organisées, très jeunes en plus. C'est aussi ce qui est agréable quand tu es un militant qui a 60 piges, de voir comment le renouvellement des générations se fait, avec des slogans différents, plus écologiques, plus féministes qu'il y a 20 ans. Et donc voilà, c'est tout l'intérêt d'être présent ici.
C'est justement la question que j'avais envie de te poser. Qu'est-ce que tu vois de ces 20 ans de militantisme, qu'est-ce que tu as vraiment vu évoluer
Moi, je fais partie d'une génération où on a manifesté, alors certes, en manifestant depuis des lustres, on a sauvé des trucs, on a permis de conserver des trucs, mais globalement, si on fait le bilan, on a perdu. Donc on n'a pas de conseils à donner aux jeunes. Et donc moi, je me mets à la disposition des jeunes. Et quand des jeunes proposent de créer un fanzine, un journal, une action, une mobilisation X ou Y, je me mets à disposition avec un pas de recul. C'est-à-dire que je me mets à disposition parce que c'est eux qui reprennent la main. Ils vont le faire avec leur réalité, leurs fantasmes, leurs envies, leurs délires, leurs illusions s'ils en ont. Et voilà, nous, je suis conscient que... Voilà, moi je suis né en 1960, je suis conscient que globalement, par rapport à l'évolution du monde, on n'est pas sûr d'avoir gagné, quoi. Donc je me mets à disposition, parce qu'en plus c'est des thèmes qui sont abordés, sur lesquels je suis obligé de plancher, de m'interroger, de discuter avec eux sur la notion de genre, sur la notion d'écologie, sur comment on voit l'éolien, comment on voit l'électrique. Enfin, il y a toute une génération qui arrive, qui est très conscientisée et... voilà, c'est le régal de partager ça avec eux.
Et tu noterais pas comme ça quelque chose en particulier qui, selon toi, est vraiment le grand tournant dans les luttes parce que tu dis que vous avez raté quelque chose. Est-ce qu'on peut encore gagner quelque chose?
Oui, je pense qu'on peut encore gagner. Je fais confiance à la jeunesse. Il me semble, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, chacun défendait, entre guillemets, son bout de gras. Je pense qu'il y a une prise de conscience que le modèle capitaliste tel qu'il est imposé fait des dégâts à tout le monde. Et que ça soit pour la défense des droits des LGBT, que ça soit pour la défense des droits des femmes, que ça soit pour le mouvement social ou quoi, les gens se rendent compte que, enfin, le terme d'ennemi ne me convient pas a priori, mais bon, si on a un ennemi commun, c'est le système qui est en place, c'est le système capitaliste qui est en place, et je trouve que c'est très intéressant d'essayer de le déstabiliser sous plusieurs angles, quoi. Voilà.
Et par exemple, avec des t-shirts pleins de slogans. Allez, on revient 30 secondes à ton stand.
Ouais, ben voilà, il y a Gain Sexisme, il y a Vagin Vigilant en connexion avec le collectif Chômeuse Go On, il y a Plus de banquise, moins de banquiers, il y a Révolution, il y a Le Réveil Sonne, première humiliation de la journée, il y a celui-là que j'adore, Qu'est-ce qui est plus moral, créer une banque ou l'attaquer. Ce slogan, tu le sortais il y a 20 ans, tout le monde levait les yeux au ciel. Depuis, tout le monde est conscient que les banques nous ont aussi mis dans la merde. Voilà, donc on est là-dedans. Oui, on va te trouver un tire-bouchon.
Excusez-moi. Sylvain de la librairie Nomade qui veut un tire-bouchon.
Ouais, on va trouver ça, t'inquiète, on a ça dans les tuyaux.
Parle-nous aussi un peu des revues, on revient dessus. Alors évidemment, Fakir, très célèbre. Hein, puisque...
Oui, Fakir, le journal de François Ruffin, c'est intéressant, Ruffin.
Est-ce que tu le sens pas en campagne, là, présidentielle ?
Il est en campagne présidentielle, mais potentiellement, il n'est pas en campagne présidentielle pour lui. De mon sentiment personnel, c'est que s'il n'y a personne d'autre dans quelques années pour prendre le drapeau, il ira.
La prochaine, là, non ?
Oui, mais la prochaine, bien sûr. Ouais. Mais je te parle de 2027.
Ah oui.
Ruffin est en train d'organiser autant Picardie Debout que Fakir, de mon point de vue, pour 2027. Et que si la gauche a l'intelligence de trouver un candidat qui fasse consensus, il se mettra complètement au service. Et que je pense que si la gauche n'est pas en capacité de trouver un candidat, il ira lui, sachant qu'il est assez consensuel. Et je veux dire, que ce soit des potes du NPA, que ce soit des mécanards, que ce soit, bien entendu, les insoumis, mais même des Verts, des socialistes et des communistes, globalement, ils ont une bonne opinion de Ruffin. C'est vrai qu'il a une intégrité qu'on ne reconnaît pas à tous les gens qui se prétendent de gauche. Donc je pense que ça pourrait être un candidat. De mon point de vue idéal, il faudrait que ça soit une femme soutenue par Ruffin, une espèce de binôme, tu vois. Et je pense qu'il est conscient qu'il a envie de peser à gauche et il essaye de faire en sorte de quand son slogan, c'est le journal Fakir, fâché avec tout le monde ou presque, je pense qu'il est en train d'essayer de se fâcher avec personne à gauche, de manière à ce qu'il y ait une possibilité que la gauche soit au deuxième tour en 2027 et qu'on change un petit peu les données du débat actuel, quoi.
Et donc Fakir, tu le trouves fâché
avec tout le monde ?
Non, je pense que c'est un slogan qui est intéressant quand il l'a sorti, parce qu'il avait écrit Les petits soldats du journalisme et donc il voulait se démarquer. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant des années, il n'y a que Ruffin qui écrivait dans Fakir, alors que maintenant, Ruffin n'écrit plus que l'édito. C'est-à-dire qu'il a pris un petit peu ses distances, ce qui a permis à Fakir d'embaucher deux journalistes et de voler de ses propres ailes, bien sûr sous la tutelle de Ruffin, parce que c'est quand même son journal à l'origine et il en est très fier, parce qu'il a fait un gros boulot depuis 25 ans. Mais voilà, le journal évolue. Ruffin évolue dans sa carrière politique, et puis c'est vrai que bon, c'est assez original la façon dont les gens apprécient ou pas Ruffin, parce que les gens ne peuvent ne pas l'apprécier, mais est-ce que il y a des gens du NPA, il y a des gens, il y a des anards, il y a des gens qui sont pas a priori sous l'étiquette insoumis, qui regardent d'un bon œil le côté Ruffin, parce que Ruffin est en train d'essayer, de mon point de vue, et je parle pas en son nom, de constituer une équipe. On sait que sur des sujets, sur le féminisme, sur le nucléaire, sur l'anarchie, par rapport à peut-être au recours à la violence de certains groupes que je peux moi légitimer, il a des difficultés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas la prétention, de mon point de vue, d'avoir la réponse à tout. Ruffin, ce qui l'intéresse, c'est le travail d'équipe. C'est le seul député qui soit au salaire médian, donc il touche 1700 euros par mois au lieu de 6500, ce qui lui permet d'avoir une équipe parlementaire étoffée. En plus, avec l'accord de la déontologue de l'Assemblée nationale, il y a des gens qui bossent chez lui, enfin, qui bossent à l'Assemblée nationale en tant qu'attaché parlementaire à mi-temps et à mi-temps à Fakir. Et en plus, il y a un turnover, ce qui fait que les gens, ils bossent avec Ruffin pendant 6 mois, pendant 1 an, et en fonction de leur réalité, de leur projet, ils changent. Donc il y a un brassage très intéressant de jeunes, à la fois de jeunes diplômés et de jeunes non diplômés. Je pense notamment à Robin, je te fais le bisou Robin, qui est le président de Picardie Debout, et qui est un jeune qui a 24 ans, quoi. Et ce que je remarque aussi, c'est la présence de la jeunesse ici. Quand je te parlais des thèmes de féminisme et d'écologie qui sont développés, j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, quand j'étais venu, les problèmes d'écologie étaient développés par les paysans du Larzac et quelques vieux qui se rappelaient de René Dumont. Alors que maintenant, voilà, les jeunes, ils sont là. Si tu jettes un papier par terre, tu vas avoir une jeune ou un jeune de 20 ans qui va te dire « ramasse ton papier ». Bon, il se trouve qu'il y a, tu vois le truc, il n'y a pas un papier par terre. Donc il y a une conscientisation beaucoup plus élevée, de mon point de vue, qu'il y a 20 ans.
Alors ça c'est pour Fakir, et puis pour revenir aussi sur l'organisation de ces résistantes 2023, un petit mot sur les autres, le point peut-être.
Ben, le point c'est en plus c'est marrant,
c'est
parce
le
que
point,
avec un G, ouais. Oui. Non mais on suit avec à travers notre podcast radio YouTube Hercule, les assises de la presse alternative qui ont lieu tous les ans au-dessus de Nice, et on a rencontré les gens du Point, de l'Empaillé qui sont derrière à côté de je ne sais plus si c'est la Confédération Paysanne ou enfin bon je ne sais pas, l'âge de fer. Donc il y a énormément, je crois qu'il y a plus de 6000, 600 ou 6000, je me rappelle, c'est 6000 ou 600 le nombre des médias alternatifs. Tu sais qu'il avait dit Benjamin
Ferron.
Ouais.
Bah, dans l'histoire peut-être 6000, mais aujourd'hui
600 médias alternatifs en France. Donc t'as l'âge de fer, ici il y a le Point, derrière il y a l'Empaillé, on attend le Mouet, qu'un journal anarchiste niçois qui évolue dans un contexte pas très favorable. Il y a le Chiffon qui est là. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que entre le bulletin municipal et le quotidien régional qui appartient à une grosse structure, il y a énormément de gens qui se réapproprient la parole sous la forme papier. Donc nous, on soutient, bon, on fait de la radio, mais on soutient sous notre site, on se fait le relais d'un maximum de médias alternatifs. Et ben, des rassemblements comme ça, c'est l'opportunité de se retrouver, d'envisager ce qui va se faire bientôt, la mise en place du SPPP, le syndicat de la presse pas pareil. Voilà, donc on participe à quelque chose avec beaucoup d'humilité et d'envie de festivité.
Et là, c'est quoi les prochains endroits où on te trouve ? Tu crées ta tournée comme ça en fonction des événements qui te font plaisir ?
Ouais, bien sûr. Alors la semaine prochaine, je vais à la montagne avec mes deux petites filles. Et puis, fin août, on sera au Rassemblement des Insoumis à Bourg-les-Valence. Après, début septembre, on sera aux rencontres ad hoc dans la Drôme du Festival documentaire. Mi-septembre, on sera sur le stand justement de Picardie Debout et de Fakir pour faire de la radio avec toute l'équipe à Ruffin. Après, on sera aux Assises de la presse alternative au-dessus de Nice, là, à la ferme de la Soréa. Et puis, bon, on a des invitations qui courent sur le mois d'octobre, donc c'est une belle retraite, quoi.
Éric, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, avoir une parole encore plus libre que celle que je t'ai donnée, dire ce que tu as envie ?
Non, je pense que c'était bien, toi. On a commencé à discuter, tu as sorti le micro, puis on a continué comme ça. Donc, merci pour le travail que tu fais.
Merci à toi.
Ciao.
Défends-toi, affirme-toi, sur les traces de Che Guevara, prends le maquis dans ta cité. terrorisé, prends le contrôle de ton usine, regarde un peu pour qui tu trimes.
On connaît la petite agitée graphisme, il y a aussi la petite agitée librairie, même si ça doit changer de nom. Salut Sylvain.
Salut.
Je dois dire d'abord quel plaisir de te retrouver sur ces rencontres Les Résistantes 2023, puisque faut le citer, tu es sur Radio Résistante, également sur RDIWA, également sur tout un tas d'autres radios. Sylvain, d'ailleurs, tu étais dans le DIWA. T'as déménagé et tu tiens ce qu'on appelle, avec Mathias d'ailleurs, tu nous présenteras tout à l'heure si tu veux bien, une librairie nomade. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce projet ?
Et bah ouais, grave, déjà ça s'appelle encore La Petite Agitée, c'est parce que quand même ça s'est créé où il y avait Théo Tiffen qui était quand même comparse, même partie prenante. Enfin, on a créé un projet plutôt de bibliothèque ambulante au départ. Avec quelques personnes dont Théo Tiff et dont Mathias, bibliothèque, info kiosque et quelques bouquins de librairie, mais du coup ça s'est plus ou moins arrêté, ça n'a pas duré très très longtemps cette histoire. Et au final moi j'ai continué un peu avec la question de la librairie parce que je faisais ça depuis quelques années, mais plutôt des petits bouquins que je traballais en valise en manif, puis après j'avais tenu des chambres d'hôtes, j'avais une petite librairie aussi anarchiste dans des chambres d'hôtes que j'avais récupérées avec un collectif de potes. Du coup, j'ai poursuivi un peu cette histoire, mais moins sur la question bibliothèque, ça m'intéressait moins, mais plutôt sur la question des bouquins, actant aussi du fait qu'il y avait plein d'infos kiosques un peu partout, mais peu de livres, et que je trouvais ça intéressant de pouvoir continuer par le biais des livres. Et donc c'était un travail avec des petites maisons d'édition, de fonctionner en direct avec elles. Du coup, maisons d'édition à Lyon, à Grenoble, à Marseille, au départ, 2-3. Et à force de vendre des livres, comme il y a vraiment un projet qui est non économique personnel, dans le sens où il y a part d'argent qui est fait avec les bouquins, jusqu'à maintenant on s'est jamais défrayé, payer des bières, payer à manger, il y a vraiment un truc de les bouquins doivent servir à pouvoir acheter des bouquins et avoir un fonds courant de livres pour faire de la propagande, rencontrer du monde, diffuser des idées. Du coup voilà, ça a grandi. Au départ s'il y avait 10 livres, aujourd'hui il y a peut-être 200 ouvrages un peu... référencé, ça commence à être une belle table de presse, une belle table de librairie, mais je pense qu'on arrive un peu à la fin au maximum de ce qu'on veut faire avec les bouquins, parce qu'on a déjà 8 mètres de table, et en vrai plus en termes de librairie itinérante ça n'a plus trop de sens. Du coup, voilà, on essaye de se restreindre avec Mathias. Du coup, il y a un comparse qui m'a rejoint il y a quelques années. Et avec tous les deux, on tient ce truc-là de bouquins. On sort la librairie quelques fois dans l'année sur des moments militants, des fois sur des moments festivaliers aussi. Aussi pour pouvoir rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu engagé, militant, de gauche, je sais pas, mais aussi se retrouver avec des personnes lambda et pouvoir discuter livres, enfin discuter plutôt politique par le biais des livres.
Et tu as parlé plusieurs fois d'une opposition avec un aspect bibliothèque, je comprends pas.
C'est que la question de la bibliothèque demanderait à avoir une présence régulière chaque semaine, aller dans des endroits, avoir des bouquins, que les gens puissent rentrer, les sélectionner, les emprunter et repartir. Et du coup, la bibliothèque, c'est de l'emprunt de livres. Et du coup, pour ça, ça demanderait d'avoir une présence beaucoup plus régulière. Et ce qu'on n'a pas, en vrai. On n'a pas le temps. On a des projets économiques, par ailleurs, pour gagner notre croûte. Et ça, c'est voilà, ça demanderait en tout cas d'avoir... Ça pourrait être pensable, hein, mais plutôt, j'ai l'impression que nous, ça nous fait moins... Ça nous porte moins, on prend moins le temps de ça en tout cas. Quoi.
Alors tu as cité le bon mot, Sylvain. En fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est la propagande, tu l'as dit. C'est de propager des idées. Donc effectivement, vous bossez, vous avez vos revenus, vous vivez d'autre chose que de ça. Donc c'est du pur bénévolat, du pur temps libre. Comment vous choisissez ces bouquins? Pourquoi ceux-là? Et tu propages quoi finalement comme idée?
Déjà, le choix, c'est de travailler avec des petites maisons d'édition. Je pense que tous les deux, on lit énormément avec Mathias, mais qu'on fait le choix de propager et diffuser des maisons d'édition qui sont... Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vendues en librairie, qu'on ne les trouve pas en librairie. Elles vont être un peu cachées dans les rayons et tout ça. Du coup, nous, on choisit de les rendre hyper visibles et du coup, de faire éloge de ces petites maisons d'édition confidentielles, plus ou moins confidentielles. Il y en a qui sont un peu plus connues, comme La Fabrique ou Cambourakis, mais il y en a vraiment... Je pense qu'à part nous, il n'y a personne qui connaît ces maisons d'édition. Enfin, les nombres de gens qui les connaissent sont très peu nombreux. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est une sélection qu'on a lue. Du coup, il y a toujours un quart des bouquins qui sont en nouveauté. Donc on est toujours en train de lire et de bouquiner pour essayer d'avoir savoir de chacun des livres pourquoi on les défend et pourquoi on en parle.
Ça veut dire que ouais, vraiment, vous pouvez parler de chacune des références. Ouais, ouais.
N'importe quel bouquin, tu peux le pointer du doigt. Et en tout cas, on en a plus que quelque chose à dire. Quoi. En général, on le défend avec les tripes et avec le cœur. Un peu, et après la tendance, bah clairement, tous les deux on se revendique quand même de ouais, pulsion du cœur anarchiste. Voilà, je pense que Mathias il peut aussi beaucoup se référer au marxisme, un peu à l'économie. Il a des sujets de prédilection qui sont moins les miens. Moi je vais plutôt aller chercher dans la poésie, dans le roman. Voilà, mais je pense en tout cas, il y a pour tous les deux un truc un peu de trouver des manières d'animer la flamme ou de la préserver, d'avoir des formes de transmission aussi par le biais du livre, d'histoire passée. Parce que en fait on s'en inspire aussi, et je pense que le côté roman et poésie, c'est aussi une manière un peu d'être pris fort par des situations romancées, mais qui en fait peuvent nous ramener aussi à nos propres quotidiens, nos propres vécus, et aussi pouvoir les sublimer aussi à ces endroits là et pas être juste dans le truc de bon, c'est beau, hein. Moi j'adore l'histoire des vaincus, cette histoire qui ne gagne jamais véritablement, mais en fait ça veut pas dire qu'elle a pas sa force et sa puissance en soi. Mais que aussi pouvoir s'imaginer ce que ça pourrait donner si à des moments justement on redonnait des coups, on en donne, mais aussi si on était en capacité de conquérir des territoires, et de pouvoir y mettre un peu de nos formes d'organisation dedans. Qu'est-ce que ça pourrait donner une société, un monde où il y aurait des multimondes, et quelle organisation, de quelle manière on pourrait s'entraider, de quelle manière on pourrait se combattre aussi, se quereller, conflictualiser.
Donc t'as aussi des bouquins, j'allais dire, un peu plus méthodologiques, techniques, du coup
Méthodo, je sais pas, je pense que tous les deux on serait un peu gênés par un aspect très programmatique de dire bon bah pour gagner il faudrait faire ça comme ci, comme ça, comme ça.
Pourquoi
Parce que, en fait, je pense que d'imaginer qu'on offre des cartes du territoire, qu'on offre un peu de la théorie, des manières d'imaginer quel type de société ou quelle manière de s'organiser, ça a son intérêt. D'annoncer un programme précis de quelle manière il faudrait procéder, je pense que c'est aussi parce qu'on met nos forces à l'épreuve des luttes sociales ou des mouvements ou de rencontres telles que celle-là, que ça donne à voir un peu dans comment vers quoi aller. Enfin, je pense qu'il y a une alliance un peu entre vouloir dessiner des chemins et en même temps vouloir se faire prendre par la spontanéité, l'improvisation de ce que pourrait ressembler une émeute, une révolte, un moment révolutionnaire comme ça. Enfin,
ouais, du coup, vous n'avez pas une démarche dogmatique, j'emploie le gros mot, ou de vouloir éduquer les gens à aller dans un sens, quoi.
Ouais, non, oui, non, non. Je pense pas qu'on éduque des gens. Enfin, je pense que je pense qu'on transmet, on est passeur de mots, quoi, ou passeur d'idées, ou... Je pense
c'est ouais, mais tu pourrais tellement passer toujours les mêmes idées que bah, vous deviendriez, je sais pas, la librairie nomade, certes, mais de tel courant de pensée.
C'est tellement flou et ouvert, ces histoires de courant de pensée, que ce soit dans la pensée anarchiste. J'ai l'impression qu'il y a autant d'anarchie que de manières de penser l'anarchie que de gens qui se réfèrent à l'anarchie. Et même les courants marxistes sont hyper nombreux et tout ça. Du coup, j'ai l'impression que. Puis les courants de vie, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on est, on est touché et tenu par. Par trop de choses pour pouvoir se cantonner à un dogme ou une manière d'entrevoir la lutte ou le monde, ouais. Je pense que c'est trop complexe et nous-mêmes, on n'a aucune vérité à apporter là-dessus. Juste, on est un peu paumé et du coup, on cherche à être paumé ensemble et voir si on trouve des petites réponses, quoi, ou des petites solutions minimum, quoi. Enfin, on cherche à être paumé ensemble. On cherche entre paumés à pouvoir avancer un peu, quoi. Enfin, je sais pas, mais...
bah, vas-y, parle pour toi. Qu'est-ce que ça t'apporte de lire tous ces bouquins et de les transmettre?
Ouais, paumé que je suis. Je pense qu'à plein des égards, il y a une histoire un peu d'amis ou de compagnonnage avec des amis qui sont pas réels, quoi. C'est ces bouquins-là qui peuvent, certains que je relis, qui peuvent m'accompagner durant mon existence ou qui sont venus poser des petits socles à des endroits. Je pense aussi qu'il y a des endroits, c'est une perte, en fait. En vrai, il y a aussi un rapport à, bah ouais, aller lire, c'est aussi pas être dans le monde tel qu'il est. La lecture, c'est aussi déjà perdre une prise du monde, enfin perdre quelque chose au monde, je pense.
Ah ouais.
Bah en tout cas, je vois qu'il y a plein de gens chez qui le livre n'existe pas. Il y a eu plein de sociétés chez qui le livre n'existait pas. Et je suis pas sûr qu'elles étaient en perte de quelque chose. Forcément, c'est pas forcément l'invention ultime ou le recours ultime à exister. Mais quand même, enfin moi en tout cas ça m'apporte du bien. Mais je pense qu'à des autres endroits, ça mode de la spontanéité aussi, parce que j'ai l'impression que je suis toujours j'ai beau me préparer, lire plein de choses, me dire que bon, ok, il faudra faire ça, ou on pourrait s'imaginer ça, ou on pourrait se projeter comme ça. Bah n'empêche que quand je le vis, bah souvent j'ai un truc un peu de, il y a de la peur, il y a de oh merde, et là putain, bah en fait il y a enfin quelque chose qui est en train de se passer. Bah comment réagir? Je me sens pas très spontané comme personne.
Non, mais en fait,
peut-être la question du livre m'ôte une partie de ma spontanéité de juste la.
En fait, t'es un vrai anard, c'est un ni dieu ni maître. Un bouquin pourrait tellement t'orienter ou t'enfermer dans quelque chose que tu le rejettes aussi, quoi.
Ouais, je sais pas, en tout cas j'aimerais pas me dire que ça soit la seule manière à la fois de comprendre, d'entendre ou de réagir au monde. En tout cas c'en est une, c'est un chemin et nous en tout cas c'est à cet endroit là qu'on a bien rentré en discussion. En tout cas c'est un endroit de facilité, quoi, mais il y en a mille autres.
Bon, sinon aujourd'hui t'es basé dans le Puy-de-Dôme, je crois.
Ouais.
Mathias
à Amber dans le Puy-de-Dôme, quoi.
À Amber dans le Puy-de-Dôme. Du coup, comment est-ce que vous choisissez les lieux où vous vous posez, comme ici, plateau du Larzac, les résistantes?
Ouais, je pense que c'est pas toujours nous qui choisissons. Des fois, on nous refuse aussi de dire oh non, c'est un truc commercial. Ouais, bon, pas tellement, mais comment dire. Mais oui, effectivement, il y a un échange d'argent, quoi. Du coup, il y a des endroits où on aimerait bien être et qui nous disent bah non, plutôt, on est que sur du prix libre ou des choses non commerçantes, entre guillemets. Ça s'entend. Et il y a d'autres endroits où on se dit ah bah tiens, on n'a pas jamais pensé à là, mais c'est des gens qui nous ont invités. Genre là, on nous aurait invités pour cette année à aller faire l'Adra Festival, un truc complètement improbable, quoi. Bon, finalement, on n'y est pas allé, mais c'est
enfin. Ah ouais, j'aurais été curieux de savoir si on vous achetait des bouquins.
Bah, je pense que ça aurait très bien marché. Après, je pense que bon, moi, plus que Mathias, j'étais un peu gêné avec cet endroit là, mais ça aurait pu être chouette. Bon, finalement, on a choisi d'autres trucs. Où il y a aussi un type qui nous a invités pour un énorme festival de bal folk dans le Puy-de-Dôme où il y aurait plusieurs milliers de personnes. Bon, en vrai, ça pourrait être improbable de retrouver avec une librairie anarchiste sur un festival de bal folk où les gens viennent danser des musiques trad et se retrouver avec une librairie un peu comme ça. Bon, je sais pas. En tout cas, ça serait des endroits surprenants où se poser. Mais plutôt, ouais, on se laisse aller au gré des invitations et parfois on force un peu la main en disant « Coucou, on est là. On pourrait se faire inviter, non ?»
Et pour nous parler de votre fonctionnement, du coup, vous achetez tous les bouquins d'avance, ils vous sont avancés par les maisons d'édition, c'est la partie financière, hein, on a bien compris que c'était à but non lucratif, mais du coup, comment vous faites tourner ce stock?
Oui. Et bah, au départ, peu de bouquins, du coup, peu de sous. Donc, quand tu travailles avec des éditeurs, soit une librairie, et du coup, t'as, on va dire le monde de l'édition qui est à peu près prend 50% du prix du livre, donc ça concerne la personne qui écrit le livre, éventuellement le traducteur, traductrice, l'imprimeur, l'imprimeuse, le correcteur, la maison d'édition, etc. Donc ça, c'est 50% du prix du livre. Et l'autre 50% se partage à 30% avec le libraire officiel, et les 20% sont ces intermédiaires qui sont les diffuseurs et les distributeurs, ceux qui gardent et qui stockent les livres dans les dépôts, et ceux qui les diffusent en allant voir les librairies en disant achetez tel livre, c'est super, machin. Et qui diffusent des maisons maisons d'édition qui... Et du coup, nous, du coup, dans notre cheminement, c'est qu'on fonctionne ni avec distributeurs, ni avec diffuseurs, et on va directement contacter les maisons d'édition. Du coup, il y en a certaines qu'on connaît depuis 6-7 ans, donc il y a presque un lien d'amitié, ce serait un grand mot, peut-être avec certaines, mais en tout cas, un lien de connivence et de sensibilité commune, là, un peu. Et du coup, on n'achète qu'en direct, on prend pas de dépôt. Dans le sens où, si ça a pris du temps à grossir, c'est parce qu'au départ, il n'y avait pas de thunes. Au départ, j'avais mis un peu de thunes de moi-même et après, j'ai pu me les rembourser. Parce que du coup, quand on achète les bouquins, on a entre 30 et 50% du prix libraire. Du coup, c'est cette marge aussi qui nous permet de racheter des livres, ou nous permet d'offrir des livres, de faire de la gratuité aussi quand les gens n'ont pas de thunes, ou de faire des prix de coûtants. Donc, on peut t'enlever 40% du prix du livre si ça te va. Donc, si tu as un bouquin à 20 euros, tu vas le payer 12 euros. Et si c'est encore trop cher, prends-le gratuitement. Et de toute façon, il y a d'autres gens qui payent et ça marche très bien comme ça. Mais du coup, voilà, plutôt en direct. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un fonds de librairie de 10-15 000 euros, qui fait que on a ses bouquins. Je pense que maintenant, on est arrivé au bout de. On n'a plus besoin de faire plus de thunes. On a un fonds de roulement qui fait qu'on n'est pas tout le temps en flux tendu à devoir acheter des bouquins chez les éditeurs, éditrices. Et du coup, maintenant, on se dit, peut-être pour les premières fois, on va commencer à se défrayer ou nous se payer à boire et à manger quand on fait des festivals. Là, on commence à se poser cette question-là. Enfin, du coup, de se dire, vas-y, on va faire ça. Et par ailleurs, se dire, peut-être qu'on se dit, on a un plafond, c'est 15 000 euros, on va avoir toujours ces 15 000 euros de livres pour ce fonds de roulement. Et derrière, pouvoir tout ce qui se fait en plus, s'il y a 2-3 000 euros qui se font par an, en plus de pouvoir faire des dons pour des luttes ou pour du soutien et tout ça. Ça pourrait être trop bien, à voir. En tout cas, c'est des petites idées qu'on a eues avec Mathias en discutant tous les deux.
Est-ce que tu as envie de nous citer quelques grandes références de cette librairie ?
Bah ouais, mais après, elles n'arrêtent pas de bouger, du coup... Je vois ce que je peux défendre avec les tripes aujourd'hui. Demain, ça sera un peu plus compliqué, mais en tout cas, il y a un échange épistolaire qui s'appelle Lettre à Samira sur un couple de Syriens qui ont été séparés par la guerre. Elle est morte et lui continue à l'écrire comme si elle était encore vivante. Et ça traite de la question de l'exil, de l'oubli, de la perte, du deuil et tout ça. C'est hyper, hyper beau. Donc, des lettres qui vont que d'un côté, puisqu'elle a disparu. On ne sait pas si elle est morte ou pas, mais de fait, ça fait des années maintenant. Ça, c'est un bouquin qui m'a énormément touché ces derniers temps. Il y a le bouquin La volonté de changer de Bell Hooks, un peu sur la question de comment construire des masculinités en dehors de rapport viril ou en dehors de trouver un peu d'autres manières de construire des formes de masculinité. Des livres, Mathias, S'occuper de son sperme, qui est un petit bouquin qui vient parler des différents types de contraception masculine. Et ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc qui porte là-dessus et du coup, on est content de pouvoir avoir des fois le slip ou l'anneau à montrer aux gens. C'est comme ça qu'on peut se contracepter. Ça, c'est un peu des manières de pouvoir faire du travail à notre place en tant que mec. En théorie politique, quoi. Il y a Caliban et la sorcière de Federici, qui est une marxiste féministe qui a beaucoup développé la question du travail domestique. Aussi hyper chouette, qu'on aime beaucoup défendre. Tout un tas de livres, Radio It Yourself sur comment faire sa radio pirate, des trucs sur l'autodéfense numérique. Tout un tas de bouquins, tout un tas de romans aussi sur la question afro-américaine, qu'est-ce que c'est d'être noir, qu'est-ce que c'est d'être noir aux États-Unis. Et quand même parler de l'histoire aussi, des bouquins sur la Makhnochina, sur Makhno qui était un anarchiste dans les années 20 en Russie, que hyper bien aussi, etc, etc, etc.
Waouh. Du coup, comment on vous contacte et on vous invite ? Est-ce qu'on peut vous suivre, j'allais dire, sur un réseau ?
Ouais, non, bonne chance. On n'a pas de. Du coup, on s'appelle encore La Petite Agitée parce que c'est l'association que Tiffen Théo a créée, mais que
Tiffen qui est maintenant a dit avec de la sérigraphie sur La Petite Agitée. Si on l'appelle elle, on peut t'inviter toi.
Et en tout cas, ouais, si vous l'appelez elle, il y a moyen de trouver notre numéro de téléphone. Mais sinon, on n'a pas de site internet. On a une adresse mail, mais je me rappelle même plus laquelle c'est.
Et comment on vous trouve, bordel ? Mathias, allez, viens.
On nous trouve pas. On tombe sur nous. Rien de plus. Et c'est ça qui est plutôt chouette. Ça nous permet beaucoup de liberté. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est présent, on a envie d'être présent et pleinement présent. Et on ne s'enferme pas dans l'obligation parce que, comme je suppose Sylvain l'a dit, de toute façon, on fait ça un peu par plaisir aussi. Et c'est comme ça que ça marche pour nous.
Bon, alors voilà. Bonne chance pour trouver la petite agitée librairie nomade et anarchiste. Merci Mathias.
Merci à toi.
Et merci Sylvain.
Merci, gros bisous et vive RDWA quoi. Et la radio libre. Et radio résistante.